Donc, chers amis du temps de la vérité,
nous sommes en train de travailler sur la doctrine de l'adoption. Donc, nous avons vu la problématique et la définition de l'adoption. En deux, nous avons vu les exemples bibliques de l'adoption. Et ce matin, nous allons étudier les conséquences de l'adoption. Premièrement, lorsque quelqu'un vous a adopté, nous avons déjà étudié l'exemple de Jacob et d'Éphraïm et Manassé. Jacob, Éphraïm et Manassé étant les enfants de Joseph, Jacob les a adoptés. Donc la première conséquence, c'est que les fils adoptés vont devenir les fils directs du père adoptif, au même titre que le fils unique. Donc les fils adoptifs qui avant n'étaient pas adoptés vont être intégrés dans la famille du père, et les enfants biologiques du père et les enfants adoptés du père vont être au même rang, vont avoir le même titre. En d'autres termes, ils vont être élevés au rang de fils au même titre que le fils biologique, que le fils propre du père adoptif. Ce que nous allons voir pour Éphraïm et Manassé, dans Genèse chapitre 48, verset 5, il est écrit ceci. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Donc, Ruben et Siméon sont les premiers et les deuxièmes fils de Jacob. Ce sont ses fils propres. Il est leur père biologique. Donc, il dit que Éphraïm et Manassé, qui sont les fils de Joseph, vont devenir dorénavant ses fils au même titre que ses fils propres. Verset 6 continue et dit ceci. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Genèse 48, le verset 8 à 9 et le verset 15 à 16 dit ceci également, qui dit ceci. Et Israël vit les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Et Joseph dit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Il dit, amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Verset 15 à 16. Et il bénit Joseph et dit, que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie très abondamment sur la terre. Donc ces deux textes nous disent que premièrement, il a vu les enfants de Joseph, et deuxième texte nous dit qu'il veut que ces enfants-là soient appelés de son nom, c'est-à-dire de Jacob, et qu'ils soient mis parmi ses fils. Donc, Éphraïm et Manassé vont devenir donc, par adoption, les fils de Jacob. Et donc, les frères de Joseph, leur précédent père biologique, donc Joseph, et Siméon et Lévi, leur oncle précédent avant l'adoption. C'est-à-dire, ces gens-là, Siméon et Lévi, c'étaient les oncles d'Éphraïm et Manassé. Mais comme ils ont été adoptés et élevés au rang de fils de Jacob, Siméon et Lévi vont devenir dorénavant leurs frères et non plus leur oncle. Joseph va devenir en quelque sorte leur frère et non plus leur père parce qu'ils ont été adoptés. Ce sont les enfants que Joseph va faire après qui vont devenir les descendants de Joseph. Mais nous savons tous après que Joseph n'a pas eu d'autres enfants. Ainsi, ils ont droit à l'héritage de Jacob parce qu'ils sont désormais ses fils. Normalement, un enfant hérite de son père. Mais un petit enfant ne peut pas venir dans l'héritage de son grand-père. Mais comme ils sont élevés au rang de fils, ils pourront dorénavant avoir part à l'héritage de leur grand-père qui en réalité est devenu par adoption leur père. Nous verrons tout cela par la suite. La première conséquence de l'adoption, c'est que le fils adoptif est élevé au rang du fils de son père adoptif et au même rang que les autres enfants propres du père adoptif. La deuxième conséquence que nous pouvons noter, c'est que l'adopté a dorénavant part à l'héritage de la bénédiction spirituelle du père adoptif qu'est Jacob. Vous savez très bien que pour le croyant, la bénédiction spirituelle, le croyant est chargé de bénédiction. Il a dans sa main des bénédictions, il a dans sa vie des bénédictions. Et donc, il ne considère pas seulement les biens matériels comme étant constitutifs de son patrimoine d'héritage. Donc, le juste a un patrimoine matériel, il a un patrimoine spirituel en héritage. Donc, l'héritage spirituel sera composé donc de la bénédiction spirituelle du Père. C'est ce qu'on a vu avec Isaac. Isaac a béni Jacob et il a aussi béni après Ésaü. Mais il leur a dit, Ésaü, puisqu'il le disait, va chasser, trouver un gibier, faire à manger pour que je puisse te bénir. Donc avant de mourir, c'est juste là, c'était bénissait leurs enfants en cédant ses bénédictions à leurs enfants. Donc nous allons voir que pour Jacob, ça sera pareil. Dans Genèse 49, Jacob va appeler tous ses 12 fils pauvres pour leur partager la bénédiction avant de mourir. Mais comme il a adopté aussi Éphraïm et Manassé, il va aussi les appeler et aussi leur donner leur part de bénédiction spirituelle. Ce sont des mécanismes qu'il faut comprendre pour comprendre ce que dit le Nouveau Testament. Lorsqu'on dit que vous êtes devenu héritier de Christ, il faut que vous compreniez tout ça, ce que ça signifie. Lorsqu'on dit que Dieu nous a bénis de bénédiction spirituelle, il faut savoir que c'est l'héritage, c'est le Père qui bénit de son héritage spirituel dans la vie de son fils. Donc, on va voir que donc Jacob va bénir Éphraïm et Manassé. Et ensuite, il va bénir ses 12 fils. Pour la bénédiction d'Éphraïm et Manassé, nous le lisons dans Genèse chapitre 49, verset 1 à 3, pour comprendre l'héritage, l'appel à l'héritage de la bénédiction spirituelle. Genèse 49, 1 à 3 nous dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Et dans tout le chapitre, il les a bénis. C'est une pratique des enfants de Dieu, c'est une pratique des hommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que dans cette pratique, Dieu a béni Adam et Ève. En bénissant Adam, la Bible nous dit dans Luc 4, verset 71, que Adam est fils de Dieu. Adam étant fils de Dieu, Dieu va le bénir. C'est dans Genèse 1, verset 28, il est écrit, « Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'enrichissez. » Dans Luc 4, donc, Adam étant fils de Dieu, Dieu va le bénir. C'est ce que Isaac a fait dans Genèse 27, 27. Jacob, après avoir béni ses 12 fils, va aussi bénir Éphraïm et Manassé. Et ça, c'est Genèse 48, versets 8 à 15. Parce qu'ils sont aussi ses fils adoptifs. Ils y ont part. Par contre, vous allez voir que Siméon et Lévi et tous les autres ont leurs enfants. Mais comme ils n'ont pas été adoptés, ils ne peuvent pas partager cette bénédiction spirituelle. Seuls les enfants propres et les enfants adoptifs peuvent hériter de cette bénédiction spirituelle. Genèse 48, verset 8 à 15 nous dit ceci. Et Israël vit les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Et Joseph dit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. ici. Il dit, amène-les, je te prie, afin que je les bénisse. Et les yeux d'Israël étaient appesantissants par la vieillesse, et ils ne pouvaient plus voir. Et il les fit approcher de lui, et leur donna un baiser, et les étreignit dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, je ne pensais plus voir ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir aussi ta postérité. Et Joseph les retira dans les genoux de son père, et se prosterna le visage contre terre. Et Joseph les prit tous les deux, Éphraïm à sa droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Et Israël avança sa main droite et la mit sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa ses mains, car Manassé était l'aîné. Et il bénit Joseph et dit, que le Dieu devant la face duquel ont marché c'est mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient très abondamment sur la terre. Et Joseph, voyant que son père avait mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm, en eut du déplaisir. Et il prit la main de son père pour l'ôter de dessus la tête d'Éphraïm et la porter sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité sera une multitude des nations. » En ce jour-là, il est béni et dit, « Qu'Israël bénisse par toi, en disant que Dieu te rende tel qu'Éphraïm et Manassé. » Ainsi, il met Éphraïm avant Manassé. Donc, nous retenons un deuxième point de conséquence de l'adoption, que l'enfant adopté a droit à l'héritage spirituel de son père adoptif. La première conséquence que nous allons voir, c'est que l'enfant adoptif aura droit à l'héritage matériel et céleste de son père. Et en effet, Éphraïm et Manassé, dans les exemples que nous avons vus, vont avoir part et vont partager la terre promise dont Abraham, que Abraham a reçu de Dieu, dont Isaac est devenu héritier et dont Jacob est devenu l'héritier. C'est ce qu'il a rappelé à Joseph. Nous voyons que dans Josué, nous allons voir que Manassé va avoir part au partage de la terre promise. Éphraïm va avoir part à l'héritage de la terre promise également. Vous pourrez le lire dans Nombre chapitre 3, versets 1 à 13. Vous pourrez aussi le lire dans Nombre chapitre 8, versets 5 à 20. Que nous dit la Bible? La Bible maintenant va parler des critères de partage. Des critères de partage. Vous allez voir que l'enfant adoptif sera traité au même titre que l'enfant pauvre. Donc, au moment du partage, Dieu va donner les règles de partage. Quelles seront les règles de partage? La première règle de partage sera que le territoire va être partagé selon le nombre de personnes que chacun a dans sa tribu. Donc, ce critère ne dit pas l'enfant propre aura certaines choses et l'enfant adoptif aura certaines choses. Donc, on va dire simplement que chacun partagera la terre selon les 12 tribus et la taille de la surface va dépendre de la taille du nombre de personnes que nous avons dans l'effectif. Et ça, vous pourrez bien le lire dans Genèse 34, le verset 2. Sur ces principes d'effectif, vous allez voir que dans Nombre 3, quand ils sont partis, Judas était le peuple le plus nombreux. Ils étaient 74 600. Dans Nombre 26, le dernier dénombrement avant de rentrer à la terre promise dans Josué, ils étaient 76 000. Ils ont augmenté de 1900. Vous allez voir que, au contraire, Manassé sera 52 000. Manassé sera supérieur à Siméon, son oncle, qui est devenu son frère. Et donc, Manassé va avoir une part plus grande. Vous avez vu que la demi-tribu de Manassé était après le Jourdain, et une autre partie était avant le Jourdain. Donc, on verra aussi que Éphraïm aura 32 000 personnes, alors que Siméon a 22 000 personnes. Donc, vous allez voir qu'encore, Éphraïm étant, et la tribu étant plus nombreuse, vous allez voir qu'ils auront tendance à avoir plus que Siméon. Donc, c'est le premier critère de partage que Dieu définit. Le deuxième critère de partage, le partage se fait selon le sort, c'est-à-dire le sort divin. Avant, le sort, quand on le lançait, on priait Dieu, c'était Dieu qui devait agir sur ce sort. Donc, on ne va pas privilégier les fils propres aux fils adoptifs. On va lancer le sort pour ce qui concerne quelle zone géographique chacun va avoir. On lançait le sort et c'est le sort qui désignait parmi les douze qui devait avoir telle zone et telle zone. Le troisième principe du partage que Dieu a défini, c'est qu'il y a un partage en fait selon le droit de grâce de Dieu. Et ça, c'est ce que va avoir Josué et Caleb. Dieu va leur donner des territoires spécifiques selon son bon vouloir. Vous vous rappelez sur la parabole des ouvriers loués à plusieurs heures. Et ceux qui ont travaillé depuis le matin ont eu leur droit de gagner. Mais celui qui est venu à la dernière heure, il a eu la même chose. Et pour argument de cette récompense, il dit, c'est mon bien, je peux en faire ce que je veux. La terre promise étant la terre de Dieu, il a décidé de faire un don spécifique à Josué et à Caleb en vertu de leur mérite, de ce qu'ils ont fait, de leur foi en Dieu pendant toute la marche. Le quatrième principe donc que vous devez savoir dans le partage, et ça c'est plus tard que Dieu l'a défini avec Moïse, c'est que personne ne peut perdre son héritage lorsque Dieu l'a défini. Quand je dis personne ne peut perdre, ça veut dire qu'on ne peut pas t'enlever, te supprimer un héritage. On verra plus tard que peut-être parce que toi-même tu l'as dévoyé ou bien tu es devenu moins méritant. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez voir que les filles de Manassé n'aura pas de fils. Mais il aura des filles. Mais comme il a été un enfant adoptif, au moment de l'héritage, les filles n'héritent pas. Dieu va leur dire, ils ont droit. Ces filles-là doivent avoir l'héritage de Manassé. Ça veut dire que quand tu es adopté, tu auras quelque chose. L'un de nos héritages dans le christianisme, même si tu as perdu tes biens, tu auras au moins la vie éternelle qui est une récompense, un héritage. Paul dit, tu auras un héritage de la vie éternelle. Donc tu auras toujours quelque chose. Voilà donc les principes de l'héritage. Voilà en gros les conséquences majeures de l'adoption. Premièrement, tu es élevé au rang de fils, au même titre que le fils adoptif. Deuxièmement, tu as droit à l'héritage spirituel de ton nouveau père adoptif. Et troisièmement, tu as droit à l'héritage matériel de ton père spirituel, de ton père adoptif. Retenez bien tous ces principes, parce que quand nous allons maintenant rentrer dans le Nouveau Testament et comprendre l'adoption des chrétiens, vous allez pouvoir comprendre toutes les phrases que Paul va citer, que les apôtres vont citer, parce que beaucoup de phrases sont dites, mais sans contexte, vous ne pourrez pas les comprendre. Il y a, c'est pareil, lorsque Jésus dit « mangez ma chair », en réalité, les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire, ça les a choqués. Mais quand vous allez ramener le principe, vous allez comprendre dans quel esprit il disait, et le principe qu'il évoquait, vous comprendrez qu'effectivement, il avait raison. Parce qu'en réalité, le sacrifice, lorsque tu fais ton sacrifice d'expiation, tu dois manger la chair du sacrifice. Donc c'est en tant que le sacrifice expiatoire qu'il disait cette phrase. Et ceux qui connaissaient les Écritures comprenaient ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire de manger physiquement sa chair, mais il parlait dans le langage symbolique de ce qu'il est le sacrifice expiatoire et que les gens pouvaient poser la main sur le sacrifice expiatoire et ils pouvaient en manger la chair. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.